rez-de-chaussée était sombre. Sur de grandes tables rectangulaires, les amateurs pouvaient feuilleter les livres rares retirés des rayons. Au premier, la lumière donnait mieux sur celle des reliures qui demandaient, pour se conserver, un peu de jour. On avait aussi rangé là le fonds de spécialité de l'ancien propriétaire, auquel Pierre ne comprenait rien mais dont il aimait les titres. C'étaient des livres de mathématiques, et les clients qui les cherchaient se passaient tout à fait de conseils. Sitôt descendu de son échelle, Pierre tendait toujours avec plaisir le traité sur les cercles d'Ostrorog-Dupont ou le théorème de Bolzano-Weierstrass à un amateur qui le recevait comme si sa vie en eût dépendu. Sa boutique était l'une des meilleures de Paris. De parti pris du propriétaire, certains ouvrages manquaient. On n'y trouvait ni Valet ni Lamartine, et moins encore Vauvenargues qu'il tenait pour un sot, et un sot ennuyeux. Mais le curieux qui y venait chercher les éditions successives des Essais, ou des Provinciales, ou Lucien Louen dans son habit de chasseur vert, était rarement déçu. Il y avait aussi une section consacrée au voyage, M. Pierre ne les aimait pas plus que son fils Augustin, mais il se laissait facilement passionner par les livres qui les racontent. Peu importait d'ailleurs que ces voyages fussent ou non imaginaires, et Phileas Fogg aux Indes valait bien Elphinstone en Perse. Ces hommes vrais ou faux avaient connu la poussière et l'ennui, le thé vert de Tindouf ou celui de Darjeeling, le Guy de Mysore, et d'autres hommes qui n'étaient pas si différents. Sans doute, devant tel paysage, avaient-ils regretté la Suisse. Parfois, ils avaient fondé des royaumes, et de pieux serviteurs s'étaient attachés à leurs pas tant que leur fortune avait duré. À présent, leurs aventures prenaient rang sagement dans les travées, sous le maroquin rouge ouvert. De jeunes jésuites venaient là revivre les tribulations du R.P. Huc. Peut-être cet homme maigre à la redingote râpée, à la barbiche tachée de nicotine, se préparait-il en lisant les coutumiers de Loubangui à exercer chez les Bamiléké la noble profession d'ethnologue. M. Pierre voyait avec plaisir sa boutique se transformer ainsi en cabinet de lecture, et comme il était fort aimable, personne ne protestait lorsque le soir venu, après avoir éteint toutes les lampes sauf celles qui surplombaient la porte, il chassait les derniers occupants d'un « Allons, fini de rêver définitif ». Charles-Pierre se tenait légèrement voûté. Les libraires ne sont jamais à la bonne hauteur. De haute taille, il présentait un visage ascétique et doux aux cheveux blancs ramenés vers le front à la mode de la monarchie de Juillet. Il regardait les gens dans les yeux et faisait preuve d'une politesse de l'ancien temps, sans égard pour l'apparence ou la naissance ou la richesse, mais avec un souci particulier du beau sexe, un souci teinté d'un peu de nostalgie. D'ailleurs, sans être ni un saint ni un théoricien, M. Pierre vivait pour les idées, ou plus exactement, les idées pour lui avaient une vie. Il les voyait à l'œuvre. Il excellait à les débusquer derrière les propos banals, les discours politiques, les menus faits de la vie de tous les jours, les événements enchaînés qui perturbent l'Europe ou ramènent à la maison le fils prodigue. Cet exercice lui permettait de dédaigner les grands hommes, qu'il tenait pour d'insupportables fanfarons. Il leur reconnaissait le sens de la mise en scène, mais détestait leurs airs de supériorité et les libertés qu'ils prennent avec une masse dont rien au fond ne les distingue. Les bergers sortent du troupeau, ce ne sont pas de meilleurs animaux que nous, et bien souvent s'en sont de pires, remarquait-il. Il ne pouvait admettre que certains hommes s'arrogent le droit d'en gouverner d'autres. Il aurait pu rire de cette prétention, si trop souvent elle n'avait conduit à la guerre. Qu'il faille des gouvernants, c'est une affaire entendue, mais quelle mouche pique donc ceux-là qui se croient promis aux plus hautes destinées, et pour finir y parviennent, il voyait dans l'ambition, si limitée soit-elle, le signe d'une carence. Pour lui, cette carence absorberait, tôt ou tard, de l'intérieur, l'être de l'ambitieux. Les désirs de l'enfance, en effet, sont sans remède. Un Marocain, une ambassade, tous les grands cordons ne suffisent pas à les satisfaire. S'il avait eu l'âme d'un réformateur, il eût volontiers prôné le tirage au sort et les mandats uniques. Ses goûts étaient ailleurs. Les catégories morales l'intéressaient davantage. Elles avaient la densité, l'intérêt des personnes. Les lumières, la réaction, le jansénisme ou le pélagianisme lui étaient familiers, et il voyait le monde comme un théâtre de marionnettes bousculées, sans arrêt de droite et de gauche par ces vents spirituels. Il s'émerveillait aussi que les nations fussent plus ou moins sensibles à tel courant, à telle hérésie, et s'amusait, mais sans plus, à l'expliquer par le climat, par le sol ou les hiérarchies familiales. C'était s'exposer à quelques risques, puisqu'il y a du danger à voir ce que les autres ne voient pas, à contourner le miroir des apparences. À Sainte-Anne, le docteur Klein soignait aussi quelques malheureux persuadés de connaître l'envers des choses, mais M. Pierre se retenait de chuter dans les ténèbres de la pensée. Il n'écrivait donc pas. L'honnête homme ne se pique de rien, disait-il sans amertume. Il s'était toutefois, malgré le vacarme, mis en branle pour Dreyfus, mis en branle dans sa tête cent ans. Il aurait aimé qu'un accusé fût présumé innocent, et admis à bénéficier de toutes les garanties de la justice. Rien de cela n'était possible avec les juges militaires. M. Pierre se méfiait beaucoup des militaires français. Il leur trouvait une fâcheuse propension à démériter sur leur terrain gagner les guerres, et à envahir le terrain d'autrui administré, rendre la justice. M. Pierre avait suivi de loin la guerre de 1870, les officiers sans carte pillant les coffres étroits des salles de classe, les généraux politiques aux impériales cirées, la paix ignominieuse. Son seul regret était qu'Alfred Dreyfus ne fût pas lui-même un civil.